9h dans le bureau de Parjupiter. Alex et Guillaume se préparent pour le premier Parjupiclass de l'année.
Moi j'ai acheté un nouveau cahier.
Et moi j'ai un nouveau micro.
Et un bic à quatre couleurs. Wow. C'est les bonnes blagues.
Salut les amis.
Bonjour Madame Charlie.
Vous avez vu, je vous ai préparé des petits dossiers avec toutes les nouveautés de la rentrée. Hein.
Ouais. La nouvelle dynamique de Parjupiclass.
Voilà. Voilà. J'espère que le nouveau Parjupiclass, il va respecter les valeurs de la République.
La laïcité.
Ouais, le respect d'autrui.
Ouais, alors justement, comme la maîtrise des savoirs fondamentaux n'est pas tout à fait acquise,
on peut dire.
Et que l'objectif reste l'élévation du niveau général.
Oui, d'accord.
Donc adopter une nouvelle méthode de management de la classe.
Non, non, c'est dommage.
Par l'émulation. Voilà, j'ai donc invité de nouveaux éléments à nous rejoindre.
Oh, j'ai peur là.
Alors pour commencer, nous aurons une spécialiste de la musique classique.
Michel Thor.
Non, Marina Chiche. Et ensuite, en alternance avec Aldebert, j'ai proposé à Guédré de rejoindre l'équipe.
Ah, youpi, voilà, voilà. Chouette.
Et enfin, il y aura une spécialiste de la langue.
Youpi.
De la langue française.
Bon ben on ne sert plus à rien alors.
Non, c'est que des filles en plus.
Mais c'est le grand remplacement.
Voilà, c'est ce qui arrive quand on fait pas attention, hein. Oh. On perd le pouvoir, voilà. Allez, au boulot.
Androphobe.
Taliban.
Pardon.
Vive la nouvelle dynamique de Parjupiclass.
C'est bien ce qui me semblait. France Inter et bienvenue parmi les joyeux baladins du LOL. Voici la devise du jour. Aimer, c'est regarder ensemble le même écran plat acheté avec l'allocation de rentrée scolaire. Jean-Michel de Saint-Exupéry. Bonjour Juliette Arnaud.
Bonjour Charline.
Vous proposez la lecture d'un classique étudié dans les écoles aux États-Unis. C'est l'unique roman écrit par Harper Lee, prix Pulitzer en 61, et ce livre s'intitule « Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur ».
Et attends deux secondes, Sam, en 8 lettres, grosse tête de con. Chasseur, parfait.
Salut, Guillaume Meurice en transition, bonjour.
Oui, bonjour, bonjour Charline, bonjour à tous.
Chaque polémique est comme une grande flaque d'eau dans laquelle vous sautez à pieds joints.
Oui,
pour
vrai.
Éclabousser qui, quoi, aujourd'hui?
Eh bien, c'est la rentrée, les pitchounes, et qui dit rentrée dit déclaration choc de Jean-Michel Blanquer.
Il raconte que les conneries.
Et retour de Roger, bien évidemment.
Et voici celle qui est en charge aujourd'hui de la Jupi Masterclass de cinéma, c'est Zabou. Bonjour Zabou.
Bonjour.
Vous avez choisi un film à partager avec nos auditeurs, l'un de vos films préférés, La beauté du diable de René Clair. Le mythe de Faust, un peu à la française, avec Michel Simon, Gérard Philippe. Il date de 1950 et se regarde toujours avec bonheur.
Ah, c'est la magie du cinéma.
Si, voilà, tu m'enlèves les mots. Ah ouais. C'est vraiment la magie du cinéma.
Et bonjour Alex Vizorek.
Bonjour, la magie d'Alex Vizorek. Je suis présent. Vous allez bien, Charlie de Bonnemaker?
Ça va pas mieux. Hein,
Allez, je laisse mon ego et je présente les chroniqueuses du jour. Il y aura celle qui, soi-disant, parle mieux français que nous, madame est linguiste, alors que quand on entend son prénom, on dirait qu'elle a pas mis toutes les consonnes dans le bon ordre. Laëlia Véron, bonjour.
Bonjour.
De quoi va-t-on parler?
De morphosyntaxe.
Et ça manquait. Ça qui m'intéressait aujourd'hui. Il y aura ensuite celle qui, capillairement, est loin devant Aldebert et Frédéric Fromet réunis. C'est Guédré, bonjour.
Bonjour.
De quoi allez-vous nous chanter?
Bah, je voulais chanter sur la morphosyntaxe, mais c'est la dernière minute que c'était pris. Dégoûté, au débeauté, j'ai dû écrire une chanson sur la rentrée des classes. Mais c'était par dépit, quoi.
En tout cas, ça tape juste dans l'actualité. Et enfin, le plus gros transfert de l'histoire de la maison de la radio, passer de France Musique à une émission d'humour sur Inter. Ça semble improbable, mais je vous rappelle que Mozart adorait les blagues de tub, n'est-ce pas, Marina Chiche?
Bah écoutez, vu que vous me lancez la balle, moi je vais vous faire un petit tuto de violon.
Un tuto de violon.
Ouais. Et bien ça va piquer.
Ça va piquer. Ajoutons à cela un journal un peu folasse, des exercices coriaces et un dessin badass.
Rentrez les classes
France Inter. Charline Daninaker. Alex Vizorek.
Parce qu'il y avait la
barre. Jupiter.
Non, par Jupiclass.
Au boulot.
Oh là là. Et voilà une émission où on va faire plein de découvertes et on n'est pas à l'abri d'apprendre des trucs d'ailleurs. Et on va commencer par découvrir une femme, un lieu et une époque grâce à vous, Zabou. Car mercredi prochain, mercredi prochain, je vous le rappelle.
C'est vous, hein, Zabou.
Vous montez sur les planches du théâtre de la Porte Saint-Martin avec un spectacle intitulé Dorothy. Et on apprend beaucoup de choses à travers cette Dorothy. Qui est-elle ?
Dorothy, c'est Dorothy Parker. Comme c'est le nom de son mari, j'ai préféré garder son prénom. Et puis, ça me rappelait le club Dorothy. Bien sûr, c'est tellement drôle.
Ne vous jugez pas, ne vous jugez
non,
pas.
Non, mais c'est formidable.
Le public le fera lui-même.
Donc Dorothy Parker, qui était une poétesse et qui a été critique théâtrale, qui avait la dent dure d'ailleurs, qui était aussi scénariste et qui écrivait pas mal de dialogues, même énormément, et parfois dans des séries Z, des films très très pourris.
On est aux États-Unis à quelle époque ?
C'est vraiment début du 20e, n'importe quoi. Et donc elle est née en 1890, hein, ouais. Voilà, et elle est morte là, en 1967. Je dis là parce que vous verrez, ça a été compliqué avec les cendres de Dorothy Parker. Ça a été très, très, très compliqué. Donc, cette femme qui a un humour extrêmement cinglant, extrêmement rude, très drôle et très rapide, et qui a un rapport en permanence avec la mort, donc les choses les plus drôles, évidemment, on a l'impression que la mort n'en voulait pas, quoi. Mais c'est un truc de dingue. Et elle a donc écrit des critiques théâtrales très méchantes. Super méchantes dans le New Yorker. New Yorker auquel elle a participé dès sa création en 25. Et donc, c'est plutôt cette Dorothy Parker-là que je raconte. C'est elle, avec les femmes de son époque, avec l'époque de la prohibition, alors qu'elle buvait plein d'alcool.
C'est là
qu'ils sont devenus tous alcooliques.
Juliette,
la belle excuse pour devenir alcoolique.
La prohibition que vous avez écrit à partir de ces nouvelles, que vous interprétez, et donc ce sera, notez bien, chers auditeurs, au théâtre de la Porte Saint-Martin dès mercredi prochain, et cela jusqu'au 24 octobre. Et nous viendrons voir avec Juliette, parce que Juliette est absolument fan de ce personnage, et il colle très bien à l'esprit de cette émission. C'était fait pour vous venir aujourd'hui, Zabou Bretman qui est dans notre compagnie. Et un premier petit disque.
Allez.
Qu'en dites-vous? Non, pas du tout.
Non, il semblait bien qu'il y avait une chronique.
Il y avait un petit silence. On se disait,
moi j'étais un peu embarrassée. Quoi.
C'est pas le dire.
C'est la demoiselle qui doit parler d'un truc qu'on n'a pas compris.
Mais qui êtes-vous?
C'est la rentrée des classes.
Non, mais attendez, ça fait 2 mois que je n'ai pas fait de Par Jupiclasse, alors il faut que je m'y remette. Alors, c'est là que je devais dire, nous ouvrons, ou on ouvre, je ne sais jamais très bien comment dire, une chaire de linguistique à l'université du LOL avec Laëlia Véron, que j'ai failli oublier. Laëlia, vous êtes vraiment linguiste et stylisticienne, maîtresse de conférences à l'université d'Orléans, et vous avez animé pendant 2 ans le podcast Parler comme jamais. Vous allez maintenant chroniquer comme jamais.
Alors, on va commencer avec votre matière préférée, bien sûr, la grammaire et la morphosyntaxe, et plus précisément pour réhabiliter un objet grammatical que tout le monde insulte, que les uns appellent imbécile, malhonnête, menteur, et que les autres appellent le con qui dit pas son nom, c'est on, le pronom a. Alors, qu'est-ce que c'est on ? Historiquement, on vient de homo, dont l'accusatif hominem a donné homme, et on, ça peut désigner l'espèce humaine en général. Par exemple, dans des phrases proverbes, quand vous dites « on n'est pas sérieux quand on a 17 ans », on veut dire tout le monde, ou dans une phrase négative, personne. Et c'est bien un pronom, dans ce sens qu'il reprend ou qu'il peut être remplacé par un groupe nominal. On est content, tout le monde est content. Il me regarde bizarrement. C'est un pronom. Mais quel type de pronom ? Parce qu'il y en a plein. Ouais. Puisqu'il renvoie à un collectif sans limite fixe, on appelle ça un pronom impersonnel ou indéfini. Mais ce qui est fascinant, et moi pourquoi j'aime le pronom « on » et pourquoi on l'appelle des fois multipersonnel, c'est qu'il peut remplacer tous les autres pronoms personnels. Alors, on a l'habitude qu'il remplace le « nous ». Par exemple, on est les champions, nous sommes les champions, et on peut avoir les deux mots « on » et « nous » avec le même référent dans la même phrase. Par exemple, nous on s'en va, nous on n'a pas l'immunité ouvrière. Je vais arriver des exemples. Mais le « on », il peut aussi être utilisé à la place du « il » ou du « elle » au pluriel. Par exemple, quand on veut, on peut, quand ils veulent, ils peuvent. Ah oui. Mais aussi, le « on » peut être utilisé à la place du « tu » ou du « vous » dans des emplois qu'on va appeler « hypocoristiques », ça veut dire « affectueux » ou « infantilisant ». Par exemple, si vous dites « alors on est content, hein, on a bien mangé, un bébé ça peut passer, un collègue ça passera moins ». Et le « on » peut aussi remplacer le « je ». Par exemple, si quelqu'un vous dit « ça va » et que vous dites « ah, on fait aller », ben voilà, ça remplace aussi le « je ». Donc, le « on » peut remplacer tous les pronoms, mais aussi sur l'indistinction, sur le fait que des fois, ben justement, on ne sait pas à quelle référence ça renvoie. Je vous fais un petit exemple littéraire. Dans Britannicus de Racine, il y a l'empereur Néron qui renonce un temps à faire assassiner son frère Britannicus, mais qui n'est pas très très convaincu, et qui dit à sa mère d'abord, avec Britannicus, « je me réconcilie ». Et puis quand son confident vient lui dire « vraiment, vous êtes sûr ?», il répond « on nous réconcilie ». Et qu'est-ce que c'est ce « on » ? Est-ce que c'est un « on » inclusif ? Est-ce que Néron est actif dans cette entreprise de réconciliation ? Ou au contraire, est-ce que c'est un « on » qui va renvoyer aux autres ? Et tout va se jouer dans le passage du pronom, dans le passage du « je » au « on ». Et bon, c'est dans la littérature, mais on le fait tout le temps dans la vie de tous les jours. Par exemple, si vous dites « il faut vraiment qu'on fasse le ménage », c'est qui ce « on » ? Est-ce que c'est toi ? Est-ce que c'est moi ? Est-ce que c'est nous deux ? Est-ce que c'est un « on » inclusif, toi plus moi, ou exclusif, surtout toi quand même, c'est ton tour ? Donc, pour finir, hein, « on », le con qui dit pas son nom, effectivement, on peut s'en méfier, mais ce qui est encore un peu plus con, c'est de répéter juste la phrase sans réfléchir à ce qu'elle veut vraiment dire. Et j'aurais plein de choses à vous dire là-dessus encore sur la question de l'accord, du niveau de langue, mais je vais essayer de respecter mon temps. Alors je vous donne juste des sources et des recommandations qui sont belges. La grammaire Grévis.
Alors on est content.
C'était pour faire passer la morphosyntaxe. Oui, la grammaire Grévis et les chroniques du linguiste Michel Francard dans le journal Le Soir. Voilà pour moi.
Mais oui, bien sûr. Merci Laëlia Véron, c'était passionnant.
Ah, j'adore.
Et je signale d'ailleurs la réédition de votre livre, Le français est à nous. Et pas état 1. Petit manuel d'émancipation linguistique coécrit avec Maria Candéa et c'est aux éditions La Découverte, on vous le recommande. Car nous sommes là aussi pour vous donner des références et faire vos petits devoirs à la maison. N'hésitez pas à revenir à Laëlia pour la suite du 1, avec joie. Don't fail me now, vous êtes écouté par Jupy Class sur France Inter. Et c'est le moment que vous attendez, bien
sûr. Le temps attendu moment.
Oui, ah. De l'information.
Oh, bah, on sait bien que
si on regarde les choses en face, que parfois il y a des achats d'écran plat plus importants au mois de septembre qu'à d'autres moments. Donc,
Le journal de presque 17h17.
Et Michel,
donc voilà,
t'as tous les examens. Ce que je pensais. Hein.
C'est nul ! Zéro !
On commence par les titres.
Oui, suite au retrait des forces américaines en Afghanistan, Joe Biden s'est défendu en parlant de choix entre le départ ou l'escalade.
Oui, en même temps, vu son âge, je comprends qu'il soit plus tenté par la retraite que par l'escalade.
Cette nuit, l'OMS a classé le variant colombien, également baptisé Mu, comme variant à suivre, car il pourrait résister au vaccin.
Du coup, on pourrait continuer longtemps à subir des tests PCR. Décidément, entre ça et la coke, la Colombie, c'est vraiment ce pays spécialisé dans la déglingue nasale. Et oui, Charline, je m'étais pourtant vacciné contre les brèves, mais elles ont muté. Allez savoir. Commençons donc par la politique française.
Oui, après un reportage de Quotidien avec des dealers de la cité des Flamands à Marseille, Gérard Darmanin...
Gérard.
Gérard,
le ministre de l'Intérieur.
Deux mois et j'oublie que c'est lui.
Quelle
Gérard
chance.
Darmanin a ordonné une opération anti-drogue dans le quartier.
Si ça se trouve, le jour où Quotidien va faire un reportage sur les abus de faiblesse et le harcèlement sexuel, il va se rendre lui-même au commissariat.
Politique toujours, c'était un grand jour pour la 5e République aujourd'hui. Car Manuel Valls fait sa première... comme chroniqueur polémiste sur BFM.
Et oui. Et le sujet, c'était Marseille. Bon, bah, c'est normal. Ça se tentait. Bon, c'est la première. Il y va mollo. Il faudrait pas, voilà, tout donner tout de suite. Il y a une belle marge de progression.
Là-bas, il faut tout raser. Il faut tout reconstruire. Il faut repeupler autrement ces quartiers.
Mais il en garde sous la pelle. On le sent. Voilà, il fait ce qu'il veut.
Et quand même, c'est déjà pas mal.
Non. Mais s'il s'était écouté, il aurait ajouté qu'il fallait mettre plus de white et de blanco dans les nouveaux immeubles.
Politique et médias toujours.
Et oui, ce matin sur Europe 1, Sandrine Rousseau n'a pas été épargnée par Sonia Mabrouk qui l'interviewait. Mais l'écologiste n'a pas resté là parce qu'à la fin, elle a ajouté un petit supplément à l'interview.
Merci Sandrine Rousseau d'avoir répondu aux questions ce matin sur Europe 1.
Merci à vous pour l'invitation et une petite pensée à la rédaction quand même qui a beaucoup souffert cet été et aux journalistes qui sont partis.
Oui bien sûr, et comme vous êtes la grande liberté des opprimés, merci de l'avoir dit ce matin sur Europe 1.
Vous êtes la grande liberté des opprimés, alors je me tourne vers la réduite, on est d'accord que ça ne veut rien dire, si ce n'est que ça veut dire que Sonia Mabrouk n'a pas trop apprécié cette intervention, et ça on l'a compris.
Économie, selon Bercy, la pandémie a entraîné une chute vertigineuse des contrôles fiscaux.
Et oui, Isabelle et Patrick Balkany viennent d'annoncer leur ralliement au mouvement anti-vax.
Et puis pour la présidentielle, Martine Aubry a annoncé qu'elle soutenait Anne Hidalgo et elle a déclaré « Anne Hidalgo fait déjà le plein au sein du Parti Socialiste ».
Et oui, la dernière fois que quelqu'un faisait le plein au Parti Socialiste, c'était Jean-Vincent Placé. Et ça s'est mal terminé.
Et à l'international, en Chine, un chercheur de l'université de Hong Kong qui menait des travaux sur les droits des travailleurs a été arrêté.
Et ben voilà, le résultat de ses études est fait. Il sait qu'il ne peut plus travailler.
Kim Jong-un, leader nord-coréen, est convoqué par la justice japonaise ce jeudi.
Kim Jong-un, le Nicolas Sarkozy du soleil levant.
Il est brève,
land. Une dispute éclate avec son formateur. L'élève pilote saute de l'avion en plein vol. Il a voulu voler de ses propres ailes.
C'est excellent. La dernière.
Et si vous trouvez celle-là excellente, la dernière est encore un cran au-dessus. En Serbie, concours culinaire annuel met à l'honneur les testicules. À Lunjevica, c'est la 17e année consécutive qu'a lieu le championnat de cuisine traditionnelle de testicules. Et c'est le seul endroit où quand quelqu'un dit « il y a une couille dans le potage », c'est pas toujours un problème.
Bien sûr.
Eh oui, et je me lève.
Bravo.
Je l'ai mis à la fin parce qu'il faut partir sur un bel effet.
Vous êtes sur RTL, il est 17h26, les grosses têtes continuent.
Et c'est là que nous allons passer à la littérature, car le maître mot de ce Jupiter-là, c'est l'élévation. On en parlait avec Zabou tout à l'heure. L'élévation, c'est important, on va parler musique classique, linguistique. Et Juliette Arnaud, c'est le retour des classiques. Vous avez choisi un roman d'Harper Lee qui est étudié même dans les écoles aux États-Unis. Son titre, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, que cache la légèreté de ce titre.
Eh bien, je voulais commencer d'abord par vous causer d'une nimbe particulière dans la tribu de ceux qui écrivent, ceux qui cessent d'écrire. Après un grand succès. Souvent parce qu'ils sont morts. Oui, la mort, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est pas négociable comme truc. Tu fais plus la vaisselle, oui d'accord, c'est youpi, mais tu peux plus écrire non plus, c'est le tarif. Alors il y a les morts jeunes en plus, Raymond Radiguet, Alain Fournier. Mais moi, ma préférence va à ceux qui cessent d'écrire, mais ne meurent pas. il ou elle cesse d'écrire, donne des explications que personne ne veut entendre. On a trop aimé leur succès pour les comprendre, on a trop aimé Holden Caulfield pour excuser Salinger, ça nous fait comme si Salinger ne nous aimait plus, et c'est difficile d'aimer quelqu'un qui ne vous aime plus, c'est douloureux, c'est comme manger du carrelage, j'anime des séminaires, Charline vous donnera des dates. Mais point d'attrape-cœur de Salinger aujourd'hui, c'est Harper Lee, alors son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais vous connaissez le titre de son énorme succès, To Kill a Mockingbird, ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Succès immédiat en 1960, qui n'a jamais faibli, des dizaines de millions d'exemplaires vendus dans le monde entier, un prix Pulitzer, un film adapté et oscarisé, et Oprah Winfrey, qui dit de ce livre, c'est notre livre national. Genre nous, en France, notre livre national, c'est Les Misérables. Et ensuite, depuis 1960, Le silence d'Harper Lee. Alors c'est pas faute qu'on l'ait tanné, éditeur et lecteur, elle a répondu deux trucs à Harper Lee avant de se taire, de rechef, elle a dit « J'ai dit ce que j'avais à dire », et puis elle a dit « C'est mieux d'être silencieuse que d'être sotte ». Et ben moi je dis « Amen ». Et c'est pas faute d'amour. C'est que ces deux phrases, mes pattes de dingue. Imaginez deux secondes un homme politique qui dirait ça. Vous n'y parvenez pas ? Moi non plus. Mais revenons à Oprah. Si elle
Lionel
dit...
Jospin, c'est ce qu'on a de plus proche.
Ah, moi je l'ai encore beaucoup entendu quand même. Hein. On va revenir à Oprah et à Harper Lee. Si elle dit livre national, c'est aussi que c'est un livre qu'on fait lire et étudier le plus communément aux gosses et aux ados américains. Et on a tort, c'est aux adultes qu'on devrait le faire lire pour qu'ils apprennent un truc qui est hyper important, qui est... Qu'est-ce que c'est être un adulte ? Par exemple, un adulte, c'est le personnage d'Atticus Finch, petit avocat blanc à lunettes qui aime par-dessus tout bouquiner pépère et élever ses deux mômes et qui choisit, dans une petite ville archi-conventionnelle et sudiste, de défendre un homme noir accusé du viol d'une jeune fille blanche par cette même jeune fille blanche. L'homme est innocent, mais on est dans une petite ville sudiste archi-conventionnelle dans les années 30. Bref, on va pas se tirer les cartes entre gitans. Charline, Atticus Finch a autant de chances de sauver son client que la gauche française de s'unir avant le printemps prochain. Mais Atticus Finch va y aller quand même pour deux raisons. Il dit la seule chose qu'ils ne doivent pas céder à la loi de la majorité, c'est la conscience de l'individu. Ça, c'est sa première raison. Et la deuxième, c'est ma préf. Surtout dans la bouche d'un mec qui pense qu'avoir une arme, c'est le meilleur moyen de se faire tirer dessus. Atticus dit « Le courage, c'est de savoir que tu pars battu, mais d'agir quand même sans s'arrêter. » Voilà sans doute pourquoi Oprah Winfrey parle de livre national. En 1960, date à l'apparition du livre, bien sûr, Rosa Parks a déjà démontré ce que c'était que le courage, mais vu que Martin Luther King et Malcolm X sont encore vivants, la lutte contre la discrimination raciale en est encore à ses débuts. Et ce livre va y participer. Et s'il plaît tant aux mômes, c'est que la narratrice, c'est une petite gosse de 6 ans au début du livre et de 9 à la fin. Cette petite gosse, c'est la fille de l'avocat, la fille d'Atticus. Et grâce à son innocence, à sa drôlerie, à ses petits points bagarreurs qui n'hésitent pas à atterrir sur la figure de ceux qui la révoltent, les plus jeunes lecteurs entrent avec plaisir dans cette histoire dure, sombre, où sans cesse les oiseaux moqueurs sont à une portée de fusil. Mais pourquoi ne faut-il pas tirer sur les oiseaux moqueurs ? Ben ça sera la semaine prochaine. Merci. Oh, bisous. Oh,
merci Juliette Arnaud. Un roman et paf le Pulitzer, quoi.
C'est fou, hein ?
C'est dingue.
Et après, plus rien.
Ouais, ouais. Zabou, vous connaissiez cet ouvrage ?
Ouais, ouais, absolument. Ah, ouais,
mais je l'ai lu il y a très très longtemps. Ouais. Et Zabou, vous êtes allé à Avignon ?
Oui.
Où vous avez amené Dorothy, votre pièce ?
Oui.
Quelle était l'ambiance à Avignon ? Parce qu'on... Est-ce que ça sentait la libération ?
Oui et non,
un petit peu.
Ah, et en Alex, vous étiez aussi. Bon.
Ouais, on s'est croisés là-bas. Ben, c'était une ambiance bizarre en même temps. En même temps, tout le monde avait envie de se précipiter dans les salles. Mm-hmm. Enfin, ceux qui étaient là, puis certains ne sont pas venus. Il y avait quand même moins de gens, moins de spectacles. Mais il y avait une petite chose qui planait quand même, une inquiétude, ouais, qui planait, mais. Moi, j'ai trouvé ça formidable que les gens soient là. C'était extrêmement émouvant, non ?
Cette forme d'insouciance, parce qu'au début du mois, on apprend qu'il faut garder le masque dans les rues d'Avignon, et les gens ne l'ont pas entendu, ça. Il y avait vraiment ce plaisir de ne pas le porter dans les rues d'Avignon. C'est vraiment bien déroulé. Et les policiers le voyaient et trouvaient que c'était vraiment bien aussi. Il y avait cet amour du théâtre qui primait surtout. Après, le 21, il y a eu le pass sanitaire. Roselyne s'était endormie, sans doute, au Conseil des ministres, donc elle n'a pas pu gérer le problème.
Ouais, mais moi, en même temps,
Mais non, mais j'aurais pu attendre une semaine.
Ouais, je suis pas sûre. Je crois que ça craignait vraiment beaucoup.
Et il y a un débat, j'adore.
Je peux jouer au début septembre au théâtre de la Porte Saint-Martin. Oui. L'idée, c'était de pas tout refermer derrière, quoi.
Ah oui.
Et bon, c'est compliqué. À un moment donné, il faut choisir une date. Et voilà, quoi. C'était là. Mais bon, quand même, de voir des gens dans une salle, c'est bouleversant, non?
Ouais.
Moi, j'ai trouvé ça, et les gens étaient contents comme nous, et étaient du coup plus gentils, donc ils ont trouvé mon spectacle très bien.
Ouais, c'est vrai,
je ne sais pas comment c'était pour vous.
Ils étaient plus gentils, ils ne sont pas partis.
Ah voilà, ils ne sont pas partis. On peut donc aller voir Dorothy. Et merci Juliette Arnaud pour cette chronique. On aura la suite, c'est donc beau, la semaine prochaine. Qu'allons-nous entendre maintenant, Alex?
Eh bien, elle est derrière nous. Elle est derrière sa vitre en plexiglas, elle a touché sa guitare. Guédré, de quoi allez-vous nous chanter?
Eh ben, il paraît que c'est la rentrée des classes, oui. Alors, je voulais encourager tous les enfants qui reprennent en leur montrant tous les bons côtés de l'école.
Très bien.
Voilà. Il y en a, il y en a.
Ah oui, d'accord.
Aujourd'hui, c'est la rentrée, ouais. C'est fini, youpi, youpi, youpi. Tu sais, l'école, comme disent les grands, c'est très important. Il faut apprendre et étudier dur pour ta vie future. Il faut apprendre à écrire pour pouvoir correctement remplir ta demande de RSA et ton inscription à Pôle emploi. Il faut apprendre à compter pour plus tard t'amuser à calculer tout l'argent que ton patron gagne à la sueur de ton front. Refrain, aujourd'hui c'est la rentrée, ouais. Les vacances c'est fini, youpi, youpi, youpi. Il faut apprendre l'histoire, tu verras, à force on se marre en voyant que c'est toujours les mêmes qui ont des problèmes. La géo aussi c'est important parce qu'on y apprend notamment qu'on est quand même de sacrés vénards de ne pas être né en Afrique noire. Les cours de musique, ma foi, bah vas-y quand même. J'ai séché tous les miens et tu vois où ça me mène. Oh, encore un refrain. Et aujourd'hui c'est la rentrée, ouais. Les vacances c'est fini, youpi, youpi, youpi. À toi qui tous les matins a mal au ventre ou a mal à la tête, va falloir y mettre un peu du tien. La vie, c'est pas que faire la fête. Si tu trouves que ton cartable est trop lourd, ça vaut quand même le coup, en vrai. À l'école, on peut trouver l'amour et faire du sexe avec sa prof de français. Et même si aujourd'hui on t'en fait baver parce que t'es grand et maigre et que t'es pas beau à voir, tu sais, la roue, elle peut tourner. Tu pourras venir ici faire des micro-trottoirs. Tu vois, ça s'arrange, Guillaume. Aujourd'hui, c'est la rentrée. Ouais. Les vacances, c'est fini. Youpi, youpi, youpi. Youpi.
Merci, André, pour cette hymne. Et Guédré, vous êtes en concerto. C'est comme ça que vous appelez votre tournée.
Oui.
Vous jouerez bien sûr à Arles le 14 octobre. Il y a des dates à Toulouse, Amboise, Toulon ou Paris le 15 novembre au Café de la Danse. Oui. Et vous êtes en première partie d'un certain Pierre-Emmanuel Barré.
Ouais, je viens de le rencontrer. Il est plutôt sympa.
Ouais. Vous me le présenterez. Merci beaucoup, Guédré. Vous connaissiez Guédré, Zabou?
Oui, je la connais bien. On se connaît très bien.
Vous l'aimiez pas beaucoup, vous nous disiez.
Non,
je comprends très bien.
Pas l'encadrer. Ouais. On la connaît bien avec mon papa, on la connaissait très bien. Mon père connaissait sa maman. Ils étaient dans le même immeuble.
C'est une histoire de famille.
C'est le showbiz, tout ça. Et elle a chanté au cabaret de mon papa. Ouais. Elle a chanté Ceux qui éteignent pour faire l'amour. Et c'était très bien.
C'est le papa de Zabou, Jean-Claude, qui m'a vraiment donné envie de faire de la scène en vrai. Parce que quand j'avais 13 ans, il m'invitait dans son salon et il me faisait répéter des pièces de théâtre.
Il faisait réparer un peu des trucs aussi.
Parce qu'il faut quand même, tout travail mérite salaire. Mais voilà, donc c'était une longue histoire.
C'est par hasard, donc.
C'est très émouvant.
Merci les amis. Alex Vizorek, rappelez-nous qui est présent aujourd'hui dans Jupiclass.
Eh bien, nous avons déjà eu la chronique de Laëlia Véron sur la langue française, celle de Juliette Arnaud sur la littérature américaine. Il nous reste la musique classique avec Marina Chiche et un classique du cinéma avec Zabou Breitman. Mais avant ça, celui qui aime tellement les gens, qu'il écoute ce qu'ils ont à dire.
Oui.
Et c'est ça qui est beau. C'est vous, Guillaume Meurice.
Oui. Coucou les pitchouns.
Cocoon, eh bien, c'est la rentrée, que, comme l'a dit la vilaine Guédrée, à qui on ne rendra pas son passeport. Comme tous les ans, on retrouve nos habitudes de la rentrée. Le cartable, la trousse et Jean-Michel Blanquer qui dit de la merde. Quelle odeur. Alors, l'année dernière, il avait dit que le virus ne circulait pas à l'école, hein, parce que le virus, bien évidemment, il attend devant la grille de l'école. C'est un petit peu le Jean-Luc Lahaye des virus. Et bien, cette année, il a dit que l'allocation de rentrée scolaire servait à acheter des écrans plats, selon une étude très sérieuse de l'Institut Jean-Mimi, pour Doigts Mouillés Magazine. C'est pas ce que vous croyez, Doigts Mouillés Magazine, parce que je vous vois venir, Alex, calmez-vous, c'est par Jupiclas. Jean-Mimi a même précisément dit « on sait bien que ». Et là, Elia en a parlé tout à l'heure, « on ». On ne sait pas qui c'est « on ». Sauf que moi, je sais qui c'est « on ». « On », c'est les gens. Et moi, les gens, je les connais bien, les gens, ils savent bien que Jean-Michel a raison, je suis allé les voir.
Je suis tout à fait d'accord. Actuellement, les gens qui reçoivent des indemnités du gouvernement l'emploient pas du tout pour ce qui est prévu.
Alors là, vous parlez des entreprises ?
Non.
Ah, voilà, oui, c'est important. C'est important parce que lâcher des milliards de CICE pour augmenter les dividendes, ça c'est ok. Là, on cause bien des pauvres qui font nimp avec l'argent. Déjà, il faut voir comment ils sont habillés, les pauvres, c'est n'importe quoi, on dirait moi. Bon, poursuivons.
Les gens reçoivent des indemnités, c'est même pas pour survivre, c'est pour la fantaisie.
Ah oui, vous trouvez ?
Exactement.
Mais sur quelles études vous vous appuyez ?
Parce que je le vois.
C'est votre observation ?
C'est mon observation.
Mais alors comment vous faites ? Vous allez à Darty et puis vous comptez les gens ?
Non, je ne vais pas à Darty. Mais je vois partout.
Voilà, c'est, je vois partout. Mais bien sûr, voilà, ça c'est bien, c'est une sorte de super pouvoir de voir comme ça partout. C'est un profil qui peut intéresser le CNRS. Et peut-être je me dis, mais j'ai un bol monstre à chaque fois comme je tombe sur des spécialistes, des pointures à chaque coin de rue. Et alors, bon, non seulement elle voit partout, mais en plus...
En plus, je promène un chien.
Ah voilà, oui, ça c'est bien.
Alors, quand on promène un chien, on ne va pas directement faire ses courses. On se promène, on attend, on regarde, on entend... On voit des choses.
Et ça, c'est une bonne technique, ouais. Peut-être que Jean-Michel Blanquer, il a un chien qui promène.
Bah, il faudrait peut-être lui demander.
Ouais, sans doute, il en a un. Hein. BFM TV, Au Point, à l'Express. Hein. Voilà, il appelle ça des éditorialistes, mais ils ont le même rapport à la gamelle. Bon, moi, ce que je sais, c'est qu'on peut quand même encore aller plus loin dans l'investigation. Parlons chiffres précis avec une autre dame qui est d'accord avec Blanquer. Pourquoi ?
Eh ben, parce que l'expérience nous dit que, en fait, compte, les trois quarts des enfants n'ont pas leur matériel scolaire.
Les trois quarts.
Ah oui.
Mais comment on peut être sûr du chiffre trois quarts, les trois quarts ?
Bon, bah, peut-être pas les trois quarts, peut-être que j'avance un peu plus.
Oui, c'est à la louche. À la louche, hein, qui est le nom d'un autre magazine qui commande les sondages en partenariat avec la Gazette du Pifomètre. Bon, de toute façon, les solutions existent pour régler le problème. Enlever les allocs et distribuer.
L'éducation nationale doit fournir une tablette à chaque enfant. Déjà, au niveau écologie, c'est des arbres moins qu'on arrive à sauvegarder.
Oui, mais alors, c'est des terres rares, c'est du cobalt, c'est des choses comme ça.
Bah, de toute façon, des cahiers, des stylos, etc., c'est complètement démodé.
Ah, ouais, alors, ouais, comme vous voulez. Moi, je pose ça là, hein, comme disent les vieux qui veulent faire jeune. Moi, je veux juste voir la tête de Pascal Praud quand on dira qu'on vire les stylos et les cahiers de l'école. Hein. Je veux juste être là au moment où on l'annonce, c'est tout. Alors, comme j'aime bien pousser l'expertise jusqu'au bout, hein, vous me connaissez maintenant, j'ai rencontré le spécialiste de tout. Bien évidemment, c'est sa rentrée également, c'est Roger. Roger qui n'aime pas trop les politiques, mais qu'est-ce qu'il pense des propos de Blanquer ?
Ça, il n'a pas tout à fait tort.
Ah, pas tout à fait alors ?
Pas tout à fait tort, parce que moi je me rappelle une institutrice qui était à Amboise, à côté de chez moi.
Ouais.
Et bien elle a bien dit, quand c'est pour acheter un livre, il n'y a pas d'argent, mais les machins, les smartphones, tout ça, là il y a de l'argent. Et puis pour l'alcool.
L'alcool aussi ?
Bah bien sûr, écoute, l'un va pas sans l'autre.
Et bah oui, smartphone et alcool, hein, les deux mamelles de la rentrée scolaire, bien évidemment. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment un exemple précis. Enfin, un exemple précis, une institutrice près d'Amboise. Là, on a vraiment des sources, donc j'ai un petit peu creusé.
En quelle année elle a dit ça ?
Oh, il y a au moins 30 ans de ça, je te dis.
Il y a 30 ans, ils utilisaient l'argent pour acheter des smartphones ?
Peut-être à l'époque, ça n'existait peut-être pas.
Ouais, il faudra vérifier ça quand même. Mais ça serait encore pire. Et ils achetaient des trucs qui n'existaient pas encore. C'est vraiment la honte. Quelle honte de balancer de l'argent comme ça, n'est-ce pas, Roger ?
Mais exactement, c'est comme là, ils veulent donner de l'argent. Là, c'est comme le truc qui va à Marseille, il va donner de l'argent, il va faire comme le tordouche de Mitterrand.
Voilà, c'est la rentrée. J'aime bien, on retrouve nos habitudes, voilà. Comme Mitterrand, voilà, tout est de la faute à Mitterrand, comme par exemple un ministre qui balance des fake news, hein, qui se répercute dans la population, pour ensuite se plaindre du complotisme ambiant. Merci pour la leçon de conneries, merci qui ? Merci
Jean-Michel.
Je veux juste
rajouter un tout petit truc. C'est une polémique qui revient à chaque rentrée, ça qu'on a depuis hyper longtemps. Et je suis là pour caser des références universitaires. Il y a un bouquin d'un sociologue, Denis Colombi, qui s'appelle Où va l'argent des pauvres, qui est super. Et que je conseille pour voir pourquoi ça existe depuis belle lurette et que Jean-Michel fait que répéter ce que d'autres ont répété.
Voilà. Excellente référence.
Je vais l'offrir à Roger.
Merci. Et merci Guillaume Meurice.
Mais je vous en prie, à votre service.
Bien sûr. Alors, Jean-Mi, il a aussi dit continuité pédagogique. Ah oui. Et vu comme le protocole sanitaire, il est foutu dans les écoles, on va maintenir cette continuité. On ne sait jamais. Alors, on passe aux exercices avec Alex.
Et oui, Emmanuel Macron est à Marseille pour une visite de quelques jours, l'occasion de faire une petite leçon sur Marseille parmi les informations suivantes, lesquelles sont vraies. A. La Marseillaise a été composée par bande organisée. C'est possible.
Ouais. C'est possible.
Ouais, ouais, ouais. On salue Jules. B. Le savon de Marseille est composé d'un mélange hydroxychloroquine et pastis. C. Marseille est la seule équipe française à avoir acheté. Avoir gagné la Ligue... Pardon. Oh là là, attention. Oui. D. Marseille est en Afrique du Nord. Ah, Alexandre Devecchio rédige également des réponses aux exercices. Il est bien intégré.
Il est dans la matinale, on
le salue.
Alors, à mon tour. Donc on a parlé de Jean-Mi. Et donc, selon le ministère de l'Éducation, le pauvre préfère acheter une télé que des vêtements et des fournitures scolaires à ses enfants, on l'a bien compris. Alors, petit exercice de mathématiques. Oh. Sachant que le pauvre vit dans un logement dont la surface murale fait 80 mètres carrés avec deux enfants, et qu'un écran plat mesure environ 1 mètre carré, combien de fois faut-il faire redoubler les enfants pour pouvoir recouvrir l'intégralité des murs avec des écrans plats? Guillaume.
Oui, présidentiel. Le parti Les Républicains lance une grande consultation afin de mieux cerner les attentes de l'électorat de droite et du centre. Et on a hâte, hein, pas se mentir. Alors, dans la liste suivante, quels seront les thèmes abordés lors de cette consultation? Réponse A, l'islam à l'école. Réponse B, l'islam à la plage. Réponse C, l'islam fait du poney. Réponse D, le vaccin contre l'islam.
Je ne sais pas si autour de cette table vous avez les réponses. Mais, oui. Mais en tout cas, vous pourrez les consulter sur notre page Facebook, la page de Par Jupiter, où il y a les énoncés et les réponses, quand on les trouve.
Car oui, Zabou, il y a des gens qui jouent aux exercices. Aussi bizarre que ça puisse, même nous, ça nous surprend.
Voilà, voilà, voilà. On va repartir dans la partie de l'émission où on s'élève, n'est-ce pas? On va entendre Zabou tout à l'heure. On va entendre maintenant, qui ça d'ailleurs?
Vous n'avez pas écrit de lancement,
si, c'est
formidable.
Si, si, j'ai écrit.
Mais attendez, mais on ne sait même pas son nom.
Marina Chiche.
Ah, oui,
j'ai écrit, vous êtes violoniste. Là, j'ai bon aussi.
Oui, ben ça se voit. C'était pas très difficile.
Là, ça se voit. Oui, mais je le vois, mais l'auditeur ne le voit pas.
C'est vrai.
Ouais. En Marina, tout cas, si elle joue de la trompette, c'est loupé.
Marina, arrêtez de rire parce que vous n'allez jamais réussir à commencer. Marina Chiche, vous êtes violoniste. Et vous aviez pris la succession de Frédéric Lodéon sur France Musique. Hein, et là, c'est la saison des transferts. Donc. Et aujourd'hui, vous êtes à présent parmi nous. Et comme ça, parce qu'on s'était dit quand on vous avait invité, on déplorait qu'il n'y ait pas assez de musique classique et que ça, qu'on le transmette pas assez. Alors allez-y, Marina.
Eh ben, je suis ravie d'être parmi vous pour ce JPcast de rentrée. J'ai envie de vous faire un petit cours de musique.
Ah oui.
Et comme j'ai mon violon, je vais vous faire un petit tuto de technique de violon, direct, quoi. Alors je vous préviens, aujourd'hui avec la rentrée, j'ai le bourdon. Et voilà ce qui se passe en musique quand on a le bourdon. Ça sonne comme ça. Ça vous fait penser à quel instrument? Allez, Guillaume Meurice.
La guimbarde.
Ouais, exactement. Il y a un petit côté folk, c'était violonneux.
Le biniou.
Mais exactement, mais c'est une petite dédicace bretonne. Et en fait, ce que je jouais là. Mais attendez, c'est du sérieux. En fait, je vous jouais un caprice de Niccolo Paganini. Hein, Niccolo Paganini, c'est la rockstar du violon au 19e siècle, le virtuose d'entre les virtuoses. On a même dit qu'il avait fait un pacte avec le diable. Et là, dans ce caprice, soyons précis, hein, c'est le numéro 20. Donc, Meurice et Vizorek, vous notez, parce qu'à la fin, je fais une interro et je ramasse. Hein. Alors, le principe est simple, c'est ce qu'on appelle un principe du bourdon. Le bourdon, c'est quand on tient une note sur laquelle on va développer la mélodie qui va graviter donc autour de cette note. Comment on fait ça au violon? Eh bien, on fait résonner une corde à vide. La corde à vide, c'est quand on laisse toute la longueur de la corde résonner sans appuyer avec la main gauche dessus. Donc, au violon, quand on a bien accordé son violon, ça peut arriver, de la corde grave à l'aigu, on a sol, ré, la, mi. La note que j'ai tenue, c'était la corde de...
C'est la grave.
Sol. Presque. La deuxième. Ré. La corde de ré.
Oh, là, là, là.
Donc si je vous joue la mélodie sans la corde, ça fait... Et là, je rajoute, je touche la deuxième corde. La corde de ré qui est à côté.
Là, on est en Écosse.
Ça vous embouche un coin, là, quand même. Hein, voyez. En plus, c'est deux en un, parce que je le vaux bien. Ah oui. Alors, n'allez pas croire que quand on a le bourdon et qu'on a un violon, on veut jouer juste des trucs mélodiques et mélodieux. On a aussi envie, des fois, de jouer vite, des notes détachées. Alors, avec l'archet, donc, c'est la baguette que je tiens dans ma main droite, on peut aussi séparer chaque note. Là, j'ai joué, c'était tout lié. C'est ce qu'on appelle le legato. Oui, en musique classique, on parle souvent italien. Le legato. Et là, je vais détacher les sons. Alors, selon la vitesse à laquelle je vais les détacher, et si je fais sauter l'archet, soit c'est détaché, soit c'est spiccato. Spiccare, qui veut dire donc séparer, trancher en italien. Oui. Ou alors, carrément, sautiller. Et ça sonne comme ça.
Quand je pense que c'est pas son instrument.
La vélocité, la vitesse, voyez.
Ça
sautille. Alors, vous allez me dire, quand on va vite, moi, j'ai parfois envie même de voler, de me mettre à voler. Alors, vous allez me dire, bah oui, bah, Marina, avec un violon, on ne peut pas voler hein, au violon. Bah, moi, je vous dis si. Et on peut voler bah, comme un bourdon, justement. Et c'est un peu comme avec le bourdon, d'ailleurs. Un des pionniers de l'aviation, l'inventeur de l'hélicoptère, Igor Sikorsky, disait que le rapport mathématique entre les ailes, toutes petites, et le poids du bourdon, nous démontre que voler lui était impossible. Mais le bourdon l'ignore, c'est pourquoi il vole. Et bien, au violon, c'est pareil. Alors là, c'est pas moi qui le dis, ni Sikorsky, c'est le compositeur russe Rimsky-Korsakov, Nikolai de son prénom. Alors, je vous propose d'écouter tout de suite un vol du bourdon au violon avec, dans le rôle du bourdon, le plus grand violoniste du XXe siècle, Yasha Heifetz. Attention, ça pique. C'est le plus virtuose des bourdons du siècle. C'est Yasha Heifetz qui jouait le vol du bourdon de Rimsky-Korsakov. Alors, un truc que j'ai oublié de dire, c'est qu'il paraît que le bourdon mâle ne pique pas, mais que la femelle, elle, pique. À bon entendeur, salut. Donc, Vizorek et Meurice, n'allez pas embêter une violoniste qui a le bourdon, ça pourrait piquer.
Merci Marina Chiche, merci beaucoup. Oh, c'était épatant.
Ah, j'adore ça. Ah
ouais,
mais je ne sais pas dans quel état on est après ça. Est-ce qu'on est hyper énervé ou très calme?
On va le savoir, c'est pas ça.
L'idée, c'est que vous ajoutiez ces morceaux de musique classique à votre playlist,
chers auditeurs. On appelle ça des coups d'archer, hein, quand ça va vite. Des coups d'archer, on peut faire mal avec un archer.
Merci Marina. Vous jouez le 22 septembre au Théâtre des Champs-Élysées avec l'Orchestre de Chambre de Paris. Voilà de quoi prolonger l'expérience. Et maintenant, c'est la Jupy Masterclass de cinéma. Avec Zabou, vous avez choisi un de vos films préférés, le film que vous avez envie de partager avec nos auditeurs.
Chers amis de la Jupy Class, je vais vous parler de quelqu'un que j'aime pour deux raisons. D'abord parce qu'il s'appelle René. Ensuite parce qu'il est hors norme, hors genre, libre, talentueux, parce que René Clair coche toutes mes cases à moi du grand artiste. D'abord, il est le premier cinéaste à entrer à l'Académie française. et il fait entrer en plus la bande dessinée. Et aussi et surtout parce que c'est un satrape du collège de pataphysique où on retrouve des gens comme Queneau, Topor, Miro, j'en passe, et des meilleurs. Enfin, pas des meilleurs parce qu'il n'y a pas de femmes. En tout cas, la période américaine nous offre quand même, entre autres, Ma femme est une sorcière, René Clair était aux États-Unis, et on a tiré de ça Ma sorcière bien-aimée. Il aime le fantastique. Et en amoureux du fantastique, il va adapter le mythe de Faust et réaliser donc mon film préféré, La beauté du diable. Faust, vieux savant amer qui échoue à fabriquer de l'or, se voit offrir par un des suppôts de Satan la jeunesse éternelle et la gloire contre son âme. Le pacte terrible. Le diable, c'est Gérard Philippe au départ. Et Faust, c'est Michel Simon, qui vont s'intervertir un peu comme dans Volteface. Vous voyez, donc c'est Michel Simon qui devient le vieux Méphisto. Mais si, Gérard Philippe, le jeune Faust. Non, vous écoutez pas. Vous êtes un petit peu déconcentré. Mais bon, c'est un bonheur ce film, c'est un pied absolu. Les effets spéciaux sont faits à la prise de vue. La caméra est ingénieuse, donc la magie y est reine. Les textes, les dialogues, les monologues sont un régal. C'est beau, c'est libre. C'est intelligent. Et Michel Simon est inventif et dingue à chaque instant. On l'entend dans sa célèbre tirade.
Ô grand Lucifer, inspire-moi. Je ne suis qu'un démon de deuxième classe, tu le sais. Je fais ce que je peux. Mais cette âme n'est pas commode à saisir. On ne sait par quel bout la prendre. Oui, c'est cela. Ô génial Lucifer, toi seul as des idées pareilles. Je vais essayer. Quel métier.
Oh, qu'est-ce que je l'aime. Je vais essayer. Il dit le A-Y. Hein. Alors, on peut imaginer comme le film résonnait en 1950 et combien pactiser avec le diable devait avoir une petite consonance toute particulière à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, entachée par la collaboration française. Non, c'est faux, il n'y avait que des résistants. Tout le monde, depuis, aime les Juifs. Donc, quand j'ai revu ce film pour la 20e fois pour vous en parler, je me suis rappelé ce dialogue qui m'a toujours remué.
Je vois clair dans ton jeu, tu sais. Tu vas me persécuter jusqu'au jour où je te vendrai mon âme, n'est-ce pas? Eh bien, discutons le marché. Que me proposes-tu?
Au lieu d'une longue vie misérable, une longue vie de félicité, je t'aiderai à devenir l'homme le plus riche, le plus puissant.
Et si je n'accepte pas?
Alors tu me mettrais dans un cruel embarras. Le véritable enfer existe sur la terre. C'est la misère, la solitude, la méchanceté des hommes.
Oh. Mon fils avait 10 ans quand il a vu ce film, et c'est resté un de ses top 10. Alors oui, le noir et blanc lui a fait un petit peu peur, mais après 3 minutes, il était conquis. La qualité de la cinématographie, du fantastique, l'histoire si brillamment racontée, l'emporte sur tout. La beauté du diable, de René Clair, c'est l'illusion, le cinéma, la vie. Enfin, pour clore cette folle chronique sur René, chronique à la saveur bien trop éphémère au goût des auditeurs frustrés, peut-être même très en colère, on va écouter quelqu'un que j'aime pour deux raisons. D'abord, ce quelqu'un s'appelle Mathieu. Ensuite, parce qu'il n'est pas, contrairement à ce que je croyais, un compatriote à vous, à toi, Charline.
René se serait bien balancé au gré du vent, souvent aurait aimé prendre le vent. Siffler, souffler dans un instrument et faire son temps tranquille sur ses barils, taper, taper tout l'été, chanter, se laisser porter. René, elle a toujours travaillé, ici et là c'est pareil, elle n'a jamais pris le soleil. Elle, avant de monter au ciel, elle voulait monter sur scène, faire des tournées, 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 tournées.
Zabou, merci pour cette masterclass.
Oh, merci à vous de m'avoir reçu.
Oh, c'était un plaisir.
De reçute, pardon. Oui,
bien sûr.
Quelqu'un qui s'occupe de la langue.
C'est formidable parce que c'est un film qu'on peut revoir facilement parce que pour les plateformes aujourd'hui comme la Cinéthèque par exemple,
oh, j'adore ça,
l'Univers Ciné, etc., les films sont facilement accessibles pour 2, 3 ou 4 euros sans forcément d'abonnement. Et donc revoir des classiques, c'est une super idée. Rapidement, vous l'avez découvert à quel âge ce film?
Très petite parce que j'ai regardé tous les films avec mon papa. On a regardé, je suis une vraie cinéphile.
regardé vraiment énormément, énormément de cinéma.
Ah ben merci d'avoir choisi celui-là. Merci Sabou Bretman.
C'était Mathieu Bogart.
Et oui, bien sûr.
Oh, Mathieu Bogart, bah oui, pardon, j'ai dit. Parce que j'ai cru qu'il était belge.
Ah ben, ça sonne, ça sonne.
Ça sonne comme ça.
Il doit y avoir une origine.
Allez, voici, pour terminer la séquence pour occuper les enfants, on vous propose de faire un dessin et de nous l'envoyer à parjupiter@radiofrance.com. Alors, dessine l'endroit où tu as passé tes vacances sur une feuille A4. Si tu étais en France, trempe ensuite ton dessin dans l'eau. Si tu étais en vacances en Europe du Sud, brûle une partie de ton dessin uniquement si tu es en présence d'un adulte. Voilà, on choisira l'œuvre la plus originale et nous la posterons sur notre page Facebook. Merci à tous les amis. Merci Zabou. Nous irons vous voir sur la scène du théâtre de la Porte Saint-Martin. À partir de mercredi prochain, nous serons le 8 septembre. Votre spectacle s'intitule Dorothy. Dorothy Parker, une passion commune que vous avez avec Juliette. Donc nous irons vous voir. Zabou Bretman, merci. Merci les amis, merci à Guédré, Laëlia Véron, merci à Marina Chiche, Juliette Arnaud, Alex Vizorek, Guillaume Meurice. Je vous dis à demain. Demain, on va recevoir... Juliette est très 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 en forme.
Elle danse le mia.
Elle surprépare l'émission, qu'elle va filer derrière. Nous recevrons deux membres du groupe IAM. C'est marrant, au moment où Macron est à Marseille, c'est vraiment le flair de l'info ici, c'est absolument fou. On va recevoir Akhenaton et... Shuriken! Ah yeah!
C'est pas la capitale, c'est Marseille, bébé!
Oh ouais.